dire au séminaire de Lézin. Je n'ai pas le même parcours que mon épouse. Je suis né dans un foyer chrétien, au plein sens de l'Évangile. Mon papa et ma maman, qui ne se connaissaient pas encore, se sont convertis dans le cadre du réveil qui a éclaté en Normandie dans les années 1930-1932, sous le ministère de l'anglais, l'évangéliste anglais Douglas Scott. Et il y a eu un souffle extraordinaire sur Le Havre d'abord et sur Rouen ensuite, où il y a eu des miracles, des guérisons, des vies, transformations de vie instantanées. Ça a été quelque chose de très puissant. Donc, mes parents étaient chrétiens et je suis né dans ce foyer chrétien. Je le dis à chaque fois, ma première réunion, j'avais 8 jours. Et je ne suis jamais parti. C'est le pasteur Marc Nicole qui m'a présenté au Seigneur. Donc il a pris le bébé que j'étais dans ses bras, demandant à Dieu de bénir l'enfant, et il a eu une prière prophétique. Il a demandé à Dieu de bénir l'enfant pour le jour où il prêcherait l'Évangile. Et mes parents savaient, depuis ce moment-là où j'étais bébé, qu'un jour leur fils serait prédicateur de l'Évangile, et Dieu a de la suite dans les idées. Je me suis converti à 16 ans, et c'est à 18 ans que j'ai commencé à prêcher la parole de Dieu. J'en ai bientôt 71, je devance ma chère épouse, et donc ça fait 53 ans que nous servons le Seigneur. Je ne regrette rien, c'est la plus belle de toutes les vies que d'appartenir à Jésus. Je dirais même que c'est la seule vie, parce qu'en dehors de lui, il n'y en a pas. Nous l'avons chanté, il est le chemin, la vérité et la vie. Il a dit, je suis la vie. Et en dehors de lui, tout est vain. Et nous bénissons le Seigneur de nous permettre de nous retrouver ce matin et de partager ensemble ce qu'est la vie véritable. Cela dit, je vous salue toutes et tous dans le nom de Jésus, vous disant toute la joie qu'il y a à être au milieu de vous ce matin, ce soir, demain matin, pour partager la bonne parole de Dieu. Seul Jésus demeure. En dehors de lui, il ne reste rien. Mais nous sommes là pour partager le meilleur. Cela dit, lorsque votre pasteur m'a demandé s'il y avait un thème, je lui ai fréquemment proposé ma vie en Christ. Il y a eu un virage dans ma vie de jeune pasteur et dans mon ministère, le jour où le Seigneur m'a demandé de considérer, en particulier dans le Nouveau Testament, ce qui concernait la personne de Jésus. Et j'ai décidé de souligner en rouge toutes les fois où je trouverais dans mon Nouveau Testament la personne de Jésus. Jésus, Jésus-Christ, le Seigneur, en lui, par lui, pour lui, avec lui. Et je me suis rendu compte au fil des jours que ma Bible devenait rouge. Et j'ai commencé à lire ma Bible comme un fou. Ça durait des semaines, des mois où j'ai lu, et mon Nouveau Testament devenait rouge. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc l'essentiel serait là. Et j'ai commencé à méditer en profondeur toutes ces choses. Ma vie personnelle a changé. Ma prédication a changé. Ma façon de conduire l'Église a changé. Parce que j'ai compris que tout était autour de la personne de Jésus. Alors je me suis rendu compte que vous proposer ce thème pour le séminaire, c'était vraiment trop ambitieux. Parce que, ayant maîtrisé ces choses au bout de quelques années, j'ai commencé à les prêcher. Et dans les églises où nous étions, nous avions l'habitude, le vendredi soir, de faire une réunion d'études bibliques. Donc, nous chantions très peu, et c'était l'étude de la parole de Dieu. Donc, je prêchais environ 3/4 d'heure, 50 minutes. Et j'avais pris l'habitude de prendre un thème pour l'année. Comme ça, on était sûr de voir les choses à fond. Et la vie en Christ a demandé un an. Alors, c'est pas en un week-end à Bienne qu'on va traiter le sujet. Cela dit, je vais essayer de vous dire tracer quelques pistes de réflexion pour vous. Et je prie le Seigneur que sa parole vraiment se grave dans notre cœur. Je voudrais introduire ce séminaire en lisant, si vous le voulez bien, dans la seconde épître aux Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 11. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 11. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît, et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, ou encore une nouvelle création. On peut traduire des deux manières. Si quelqu'un est d'abord être en Christ. Mais de quel Jésus parlons-nous ? Quel est notre Christ ? Alors j'ai relevé quelques points dans les Écritures. Mon Jésus, le vôtre, c'est celui qui est au-dessus de toute chose. C'est celui que l'apôtre Paul appelle le Dieu béni éternellement. C'est celui dont l'épître aux Romains nous présente comme étant riche, pour tous ceux qui l'invoquent. C'est aussi celui sous les pieds duquel Dieu a tout mis. Notre Jésus est présenté comme glorieux dans la seconde épître aux Corinthiens. Il est l'image de Dieu. Ce n'est pas tout. L'apôtre Paul, dans son épître aux Éphésiens, nous dit qu'il est celui qui possède des richesses incompréhensibles. Dans la même épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul parle de votre Jésus, de mon Jésus, comme étant monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toute chose. Dans l'épître aux Colossiens, il est présenté comme l'image du Dieu invisible, c'est-à-dire qu'il est la manifestation réelle, accessible de Dieu qui, en dehors de lui, ne saurait être ni connu ni contemplé. La parole de Dieu me dit de Jésus qu'il est le premier-né de toute la création. C'est-à-dire que Christ, dans sa dignité suprême, est au-dessus de tout ce qui a été créé, bien plus, existant de toute éternité, il est avant toute création, et la parole de Dieu me dit que tout a été créé par lui et pour lui. Jésus, il est la tête du corps de l'Église. Jésus, il est le premier-né des morts. C'est-à-dire que, ressuscité d'entre les morts, il est le premier-né d'une race nouvelle dont nous faisons partie. La parole de Dieu me dit dans l'Épître aux Colossiens qu'il est en tout le premier. Et comme si ça ne suffisait pas, l'Épître aux Colossiens nous dit de Jésus, il est le mystère de Dieu, dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Et puis Jésus, selon l'épître aux Colossiens, est le chef de toute domination et de toute autorité. Et voilà que nous parlons de ce Jésus extraordinaire. La parole de Dieu vient frapper ton cœur et le mien en me disant, mais en tant que chrétien, tu es dans ce Christ-là. Tu es dans ce Christ-là. Alors oui, nous parlons du vrai christianisme, et je dirais que être en Christ, c'est la position de la nouvelle naissance dont a parlé Jésus. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc être en Christ, c'est la position de la nouvelle naissance. Quand je suis né de nouveau, du même coup, je suis dans le Christ. Être en Christ, c'est la condition de la conversion. Parce que la conversion va nous amener à cette position-là et elle va nous y amener totalement. Je sais que ce sont les bases. Mais l'apôtre Paul, dans son enseignement apostolique, n'a pas hésité à rappeler ces choses aux églises. Rappelez-vous ce qu'il dit aux Colossiens. Rendez grâce au Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés ou nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé ou dans le royaume du Fils de son amour. Dans un royaume, pas dans une pièce mansardée. Je ne sais pas si vous avez ça comme désignation des appartements en Suisse, mais en France, on dirait pas dans un F2. Il nous a transférés dans un royaume. Et ne projetons pas, j'y reviendrai dans le séminaire, certains textes dans le futur alors qu'ils concernent le présent. La parole de Dieu ne me dit pas qu'il me transportera. Mais c'est fait. Donc actuellement, étant dans le Christ, je bénéficie d'un royaume. Je suis dans un royaume. Donc Dieu ne m'appelle pas à une petite vie égoïste, médiocre, pauvre, sans ambition spirituelle, sans appétit, sans aspiration, sans désir. Étant dans le Christ, Dieu me rappelle ce matin qu'il y a pour moi la jouissance d'un royaume. Alors, la conclusion de cette introduction est simple. Je suis en Jésus ou je n'y suis pas. C'est tout. Si tu es chrétien, tu es dans le Christ. Et si tu y es, mon frère, si tu y es, ma sœur, écoute bien ça, tu y es totalement. Amen. Tu y es totalement. Amen. Si quelqu'un est en Christ, c'est clair, c'est définitif. Je vais prendre une comparaison. Noé construit son arche, et puis le moment vient où Noé doit entrer dans l'arche et Dieu ferme la porte, comme ça on est sûr qu'elle est bien fermée. C'est Dieu qui a fermé la porte. Noé est dans l'arche. Pour l'instant, il ne pleut pas. Il va rester 7 jours dans l'arche, sans qu'il ne se passe rien. Et puis, les écluses des cieux s'ouvrent. Les sources du grand abîme s'ouvrent. Et avec les cataclysmes d'aujourd'hui, on n'a pas de mal à imaginer un déluge. Donc les eaux commencent à monter, et à monter, et à monter. Ça va demander 40 jours, jusqu'à ce que les sommets des plus hautes montagnes soient couvertes. Mais au bout de 40 jours, alors que les eaux sont montées d'une façon énorme au point de détruire tout ce qui a souffle de vie, au bout de 40 jours, Noé n'était pas plus dans l'arche qu'au premier jour. Vous êtes bien d'accord avec ça? Il n'était pas plus dans l'arche. Qu'il y ait le soleil, puis après qu'il y ait la pluie, qu'il y ait les sources du grand abîme, que sur la terre les choses se déchaînent, Noé était dans l'arche, mais pas plus au bout de 40 jours qu'au premier, il était dans l'arche. Nous sommes en Christ de la même façon. À partir du moment où nous avons donné notre vie au Seigneur, Dieu nous a saisis, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Alors c'est une réalité individuelle et c'est aussi une réalité collective. Sur le plan personnel, par exemple, je ne peux pas vous citer des dizaines de textes, mais simplement quelques pistes de réflexion. Après, votre pasteur aura 3 ans de prédication là-dessus. Sur le plan personnel, par exemple, Paul écrit aux Romains, « Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. » Donc il parle d'un ou deux chrétiens et il dit qu'ils ont été en Christ avant lui. Ça c'est sur le plan individuel. Quelqu'un sur le plan individuel est en Christ quand il est chrétien. Sur le plan collectif maintenant. Alors c'est pareil, un texte parmi une multitude. Paul écrit aux Galates, « J'étais inconnu de visage aux églises de Judée, qui sont en Christ. » Et en parlant des églises qui sont dans le Christ, il y a des dizaines de textes dans le Nouveau Testament. Alors à ce sujet, une remarque. Et là encore un exemple parmi beaucoup d'autres dans les Écritures. L'apôtre Paul écrit aux Philippiens, « Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints, en Jésus-Christ, qui sont à Philippe. » Alors, je vais vous dire tout de suite que pour moi, le grec, c'est de l'hébreu. J'y connais rien. Mais un jour, j'ai rencontré, dans un camp de jeunesse, Madeleine Gardon. Elle avait une petite 4L. Moi, j'avais un Solex. Elle connaissait le grec. Moi, j'y connaissais rien. Et je me suis dit, ça, c'est la fille qu'il me faut. Alors, la 4L s'est mariée avec le Solex. Et ce qui me permet de découvrir les richesses du grec. Je reviens à ce qui est sérieux. Paul dit, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. Dans le texte grec, la préposition « en », c'est la même. C'est-à-dire que, on peut traduire « à tous les saints en Jésus-Christ qui sont en Philippe ». Ou alors, si vous voulez choisir autre chose, « à tous les saints à Jésus-Christ qui sont à Philippe ». Je ne sais pas si vous me suivez bien, alors je vais préciser ça. Nous sommes à Bienne, d'accord ? Nous sommes à Bienne, ça veut dire que nous sommes là, dans la ville de Bienne. Nous sommes à Christ de la même manière. Non pas dans le sens de l'appartenance, mais dans le sens du lieu. Vous me suivez maintenant ? Philippiens, vous êtes en Jésus-Christ et en Philippe. Et là, je me suis arrêté sur quelque chose qui a bouleversé un peu ma vie. C'est que je me suis rendu compte que pour Paul, Christ, c'était sa résidence principale. Et lorsqu'il s'adresse aux chrétiens de Philippe, il dit « Oui, vous êtes en Philippe, mais vous êtes d'abord en Christ. » La ville où ils habitaient était leur résidence secondaire. Et maintenant, je vais vous dire quelque chose. Quand ton environnement terrestre, ton travail, avec les pressions, avec les collègues qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont ce qu'ils sont, qui blasphèment, qui persécutent parfois, qui sont capables des pires choses à l'égard des chrétiens. Quand ton environnement, le voisinage, ou la famille qui ne connaît pas le Seigneur, ou une épreuve terrible, la maladie, un membre de famille qui ne connaît pas le Seigneur, un enfant, un adolescent qui nous laisse du souci, ou toute autre chose, toute autre forme d'épreuve. Je replace les choses dans le contexte de la première Église, quand la persécution, la prison, et ce qui est le lot de tous les chrétiens, les combats spirituels, quand tout ça, ça devient ta résidence principale, alors oui, tu peux connaître des crises graves. Le découragement, la lassitude, ne plus avoir envie de lire ta Bible, de prier, de venir à l'église, tout semble se fissurer et tu te sens aspiré vers le bas. Parce que tu n'habites plus dans le Christ, tu te laisses habiter dans ton environnement. Tu n'es plus en Christ, tu es en Philippe. Et c'est la ville de Philippe, ta résidence, c'est plus le Christ. Si au contraire, Jésus est ma résidence principale et pas ma résidence secondaire, alors que Paul soit dans sa prison, eh bien, il dira Paul prisonnier de Jésus-Christ. Il ne dira pas Paul prisonnier des Romains, jamais vous trouverez ça. Paul ne dit pas Paul dans ma geôle misérable. Non, non, il est prisonnier de Jésus-Christ parce qu'il sait que dans le Christ, il peut traverser l'épreuve. Quand il y a eu les bûchers à Lyon et qu'on a mis les jeunes gens pleins de foi, pleins d'amour pour Jésus sur les bûchers, et alors qu'on apprêtait à mettre le feu et que ces jeunes gens allaient être grillés vifs, à un moment donné, le bourreau a mis sa main sur la poitrine d'un jeune homme, le rythme cardiaque était normal. Ça a étonné le bourreau, parce qu'il se disait, mais dans quelques secondes, on va mettre le feu, ces jeunes gens vont griller vifs. Et ce jeune homme a dit, monsieur, là-haut dans le ciel, on est en train de distribuer des couronnes, et nous y allons pour recevoir la nôtre. Ils n'étaient pas dans le bûcher, ils étaient dans le Christ. Qu'est-ce que vous croyez des compagnons de Daniel? Qu'ils étaient dans la fournaise? Pas du tout. Ils y sont allés avec le quatrième, qui était là, qui avait la figure d'un homme, mais qui les a sortis de là. Il faut que je réalise que Christ est ma résidence principale. Alors ma sœur, je sais comment ça se passe dans nos rassemblements. On a toujours le sourire. Il y a quand même un vernis, qu'on le veuille ou non. On ne veut pas non plus transférer sur les autres nos problèmes, toujours. Alors, on ne parle pas forcément de ce qui est là, très au fond du cœur, mais qui nous brise, qui nous fissure, qui nous obsède, qui nous martèle. Je te dis, arrête. Il ne faut pas que cette épreuve soit ta résidence principale, il faut que ce soit Christ. Accepte de revoir cette position par la foi et de dire, Seigneur, c'est ta parole qui le déclare, je le crois, je suis dans ton Fils bien-aimé. C'est là ma résidence. J'habite en Jésus. Et maintenant, je vais traverser l'épreuve étant dans le Christ. Je refuse que ma résidence secondaire, l'épreuve, les problèmes terrestres, soient ma résidence principale. Je le refuse dans la foi. Ma résidence, ce sera Christ. Et je veux vivre et traverser tout mon chemin avec Jésus. Amen. C'était pas mal de revoir nos bases quand même. Ouais. Alors vous allez me dire, mais là je ne vous suis pas très bien, parce que tout à l'heure vous avez dit que si on est dans le Christ, on y est totalement, et qu'on n'y sera pas plus après 50 ans qu'au premier jour de la conversion. Alors, pasteur Balière, où se situent mes progrès? Puisque je suis dans le Christ et que j'y serai pas plus, dans 50 ans, j'y suis. Où se situent mes progrès? Et je voudrais vous dire, rapidement, on ne verra pas tout ce matin, tant pis, qu'il y a trois domaines dans lesquels se situent nos progrès dans le Christ. Le premier domaine, c'est la place et le rôle de Christ dans notre vie. Mon frère, quelle est la place et quel est le rôle de Christ dans ta vie ce matin? Ma sœur, quelle est la place, quel est le rôle de Christ dans ta vie ? Et il y a des années en arrière, j'ai bloqué sur un texte des Éphésiens. Et j'ai bloqué pendant des années. Paul dit « Je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être fortifié dans l'homme intérieur par le Saint-Esprit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. » Et j'ai eu envie d'aller taper sur l'épaule de Paul et de dire « Arrête, relève-toi, t'es à genoux, mais relève-toi, il y a quelque chose qui ne va pas là. » Parce qu'au début de l'épître, tu chantes un hymne extraordinaire à Christ. Chapitre 1er. En lui, en lui, en lui, en lui. Relisez ça, il n'y a aucun cantique que nous chantons qui vaut ça. Hein. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. En lui, nous avons la rédemption, la rémission des péchés. En lui, nous avons été scellés. En lui, nous avons reçu le Saint-Esprit. Enfin, c'est un hymne glorieux à Christ. Et puis au chapitre 2, on y viendra, si on a le temps. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons dans le Christ. Je vais vous poser une question toute simple, il n'y a pas de piège. Est-ce que vous croyez que les Éphésiens étaient convertis ? Ma femme a dit oui. Non, mais n'ayez pas peur. Bon, peut-être que vous, Suisse, vous répondez un quart d'heure après la question, mais s'il vous plaît, que nous gagnions du temps. Est-ce que les Éphésiens, pour vous, étaient convertis ? Mais oui, ça ne fait aucun doute. Lisez les deux premiers chapitres de l'Épître aux Éphésiens, ça ne fait aucun... Alors qu'est-ce qu'il fait là, à genoux, là ? Qu'est-ce qu'il fait à genoux ? En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Mais Paul, c'est pas fait, ça. C'est pas fait. Alors Paul, il faut que tu m'expliques comment des gens convertis, et tu viens d'en parler au chapitre 2, Christ n'habite pas encore dans leur cœur. Et j'ai buté là-dessus longtemps. Jusqu'au jour où je me suis dit, il faut aller voir dans le texte original quand même. Il faut aller voir dans le texte original. Habiter, je vous fais grâce du mot grec, hein. Ça veut dire, dans le verset que je viens de citer, ça veut dire s'être établi dans, fixer sa résidence, se sentir chez soi, gouverner. Alors il prie. Et c'est comme s'il avait dit, Seigneur, je te rends grâce de ce que les Éphésiens sont convertis, de ce qu'ils sont passés, comme il le dira dans la suite de l'Épître, des ténèbres à la lumière. Mais maintenant je suis à genoux devant toi, toi le Père duquel tire son nom toute famille, je prie pour que Christ s'établisse en eux. Que Christ fasse sa résidence en eux. Que Christ se sente chez lui dans leur cœur. Que Christ gouverne. Par nous pouvons être chrétiens sans que Christ habite dans nos cœurs dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il ne se sent pas encore chez lui. Il n'a pas pleinement fixé sa résidence. Il ne gouverne pas. Et il y a là, vous le comprenez, un développement évident au cours duquel nous acceptons ce programme divin au prix de l'abandon de tout notre être. Et je bénis Dieu pour le chant qui a ouvert le séminaire. Entre tes mains, j'abandonne tout. C'est ça, quand Christ habite dans nos cœurs par la foi. Alors je sais que c'est facile de le chanter, mais il y a un prix à payer pour que Christ se sente chez lui dans ta vie. C'est qu'il va falloir capituler et lui dire « Seigneur, il faut que tu gouvernes et ça va être au millimètre avec toi. Plus rien de ma volonté personnelle, tu te sens chez toi, en moi, tu gouvernes, tu t'établis dans ma vie. » Regardez ce que l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens. examinez-vous vous-même, éprouvez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous ? Et ce matin, je me pose la question. Vous savez, je n'ai pas fait tout ce trajet-là pour vous donner des leçons. Dieu connaît mon cœur, je me mets derrière la parole de Dieu avec vous, dans le même panier. Alors ce matin, j'examine mon cœur et je me dis, mais est-ce que Jésus-Christ est en moi ? Il n'est pas question de remettre en cause notre conversion, nous sommes convertis. Je sais que vous me suivez bien. Est-ce que Jésus-Christ est en moi ? Est-ce que je reconnais qu'il est en moi ? Est-ce qu'il se sent chez lui ? Est-ce qu'il gouverne ? Le Seigneur Jésus a dit quelque chose de très intéressant qui va tout à fait dans ce sens-là. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alors notez bien dans ce verset qu'il y a notre part, notre responsabilité vis-à-vis du Seigneur, c'est de garder sa parole, avec tout ce que ça veut dire. Avec tout ce que ça veut dire. Et si nous faisons notre part, Dieu va faire la sienne. Il fera notre demeure chez nous. Mais Jésus dit cela parce qu'il répond à une question de l'un de ses disciples. Et la question c'est, d'où vient que tu te feras connaître à nous et pas au monde ? Et Jésus répond ça. Mais les disciples étaient déjà en marche comme disciples. Ils étaient même apôtres, ils étaient envoyés, ils avaient un ministère. Et l'un des disciples dit, d'où vient que tu te feras connaître ? Non pas que tu t'es fait connaître, il y a un développement. Il y a un développement. Et à cette question-là, Jésus dit, nous viendrons et nous ferons notre demeure. Le développement, c'est que je capitule pour que Christ se sente chez lui et qu'il gouverne. Je vais vous dire quelque chose. Puisque nous sommes appelés à vivre la vie de Jésus, parce que Dieu a fixé la barre très haute, c'est ça. Puisque nous sommes appelés à vivre la vie de Jésus, la seule voie possible pour nous, c'est qu'il vienne vivre sa vie en nous. Ce n'est pas possible autrement. Et c'est là où j'ai besoin de dire, Seigneur, je ne peux pas. J'arrête avec mes efforts, j'arrête avec mes promesses, mes résolutions, tout ça, ça ne sert plus à rien. J'ai fait ça plein de fois, je me suis découragé, ma vie ça a été comme ça, des hauts, des bas, des rechutes, des encouragements. J'arrête, je capitule, je comprends que le chemin c'est de te laisser vivre ta vie en moi. C'est que tu t'établisses dans ma vie et que tu gouvernes. Paul dit aux Galates, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Enfin, quand Jésus meurt sur la croix, mais Saul de Tarse est encore un jeune rabbin qui va s'avérer être l'ennemi public numéro un des chrétiens. Mais ne me dis pas qu'il était sur la croix crucifié avec Jésus. Qu'est-ce qu'il veut dire ? J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais il y a un moment donné dans la vie de Paul où il a réalisé qu'au moment où Jésus meurt sur la croix, j'anticipe sur ce que je vais dire en fin de matinée, il meurt en lui, il meurt avec lui. Il y a donc un regard de foi sur le Christ en disant « Oui, Jésus, je crois ça. Quand tu es mort sur la croix, je suis mort avec toi, j'ai été crucifié avec toi. Et c'en est fini de mon caractère, de ma volonté, de mes sautes d'humeur, de mes impulsions, de ma chair. Je crois parce que mon frère, ma sœur, je vais le redire tout au long de ce séminaire, tu es ce que tu crois. Tu es ce que tu crois. Et tu possèdes ce que tu crois. » À quatre reprises dans la Bible, Habacuc, Romains, Galates, Hébreux, à 4 reprises, Jésus dit « Mon juste vivra par la foi. Je suis ce que je crois. » Et Paul, à un moment donné, réalise que quand Christ est mort, lui a été crucifié avec Jésus. Et que maintenant, s'il vit, c'est plus lui qui vit, mais Jésus qui vit en lui. Alors, après avoir dit à genoux, « Je prie pour que Christ habite dans vos cœurs par la foi », il termine ces 2 versets plus loin en disant « Que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu ». Vous allez dire « Moi, ça, j'y arriverai jamais ». Ben moi non plus. Et pourtant, c'est dans le programme de Dieu. Mais comment est-ce que je peux être... Vous imaginez ? Réfléchissez au verset. Être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ben, la seule solution, c'est de laisser vivre en nous celui qui a la plénitude de Dieu, c'est Jésus. Et à partir du moment où je vais accepter cette position en Christ et où je vais laisser Jésus remplir ma vie, oui, je vais commencer à goûter quelque chose de la plénitude de Dieu. Le 2e point pour nos progrès, il y avait 3 axes, j'en suis toujours au premier. Je pense qu'on va jeûner ce midi, si vous amenez le casse-croûte, c'est trop tard. Le 2e point, c'est notre propre croissance. Parce que nous sommes dans le royaume, ok, nous sommes en Christ et on n'y sera pas plus. Mais là, en lui, il y a quelque chose qui va se passer. D'abord, pour reprendre les expressions de la Bible, nous avons été engendrés. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, quand vous auriez 10 000 maîtres, c'est-à-dire des 10 000 pédagogues, instructeurs spirituels, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, parce que c'est moi qui vous ai engendrés en Jésus. Donc nous avons été engendrés, il faut bien que ça commence par là. Physiquement, pour vous et pour moi, ça a commencé comme ça, nous avons été engendrés. Paul dira aux Éphésiens, « Nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ. » Donc, nous avons été créés. Paul écrit aux Galates, « Ce n'est rien que la circoncision ou l'incirconcision, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. » Donc, j'ai été engendré, créé en Jésus. Et puis, du même coup, engendré, créé, en Jésus, nous sommes nés à la vie de Dieu. Nous sommes devenus des nouveaux-nés. Et c'est ce que l'apôtre Pierre écrira dans sa première lettre. Désirez comme des enfants nouveaux-nés, le grec dit nouvellement engendrés, le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Bon, nous avons eu 5 enfants, nous avons 14 petits-enfants, comme ça vous saurez tout. Mais on n'a pas commencé par leur donner... Une entrecôte de bœuf, hein. Ça a commencé par le lait, puis bouilli premier âge, bouilli deuxième âge, enfin, je sais pas, c'est comme ça en Suisse, certainement. Même si vous mettez un peu de gruyère dans le biberon, mais bon, c'est comme ça, quoi, hein. Voilà, ça commence par le lait. Donc, il y a une nouvelle naissance. Après l'engendrement, la création, il y a la nouvelle naissance. Et ensuite, nous sommes toujours en Jésus. Mais il y a un processus de développement, c'est que nous devenons des enfants. C'est pas la maturité, hein. C'est pas la maturité. Il a l'air d'être au courant. Hein. Ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, dit Paul aux Corinthiens, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Il ne remet pas en cause leur conversion, il ne dit pas qu'ils ne sont pas convertis. Mais il leur reproche, au niveau des Corinthiens, de ne pas être devenus des adultes. Ah, ils sont en Christ, mais des enfants. Je vous ai donné du lait. Mais ça va bien quand on est nouveau-né. Mais à un moment donné, il faut quand même passer à la nourriture solide. Mais pour les Corinthiens, ce n'était pas possible. Il y avait eu un arrêt dans la croissance. Là, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Ce n'est pas la faute de Christ. Ça vient de celui qui est en lui. Et qui ne saisit pas à processus de croissance. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnels, vous êtes des enfants. Le stade d'enfance, On sait d'être dans le Christ, mais on n'est quand même pas débarrassé de la chair. Il y a encore des choses, alors à Corinthe, querelle, division, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, je suis de Benjamin, je suis de Paul Balière. C'était la folie à Corinthe. Puis, il y avait le dessus du panier, nous on est de Christ. Donc il y avait un tas de choses à Corinthe. Moi j'aurais pas voulu être pasteur de l'église de Corinthe, je sais pas toi, mais l'impudicité, les frères qui arrivaient ivres à la Sainte-Seine, enfin c'était là. Ah oui, non, mais c'était là. À Corinthe, c'était quelque chose. Hein. Et Paul leur dit, mais vous êtes des enfants. Le texte grec emploie un mot qui signifie être en bas âge. Et puis, il y a une croissance. Une croissance qui est nécessaire jusqu'à une perfection réelle. Et l'apôtre Paul, dans son épître aux Éphésiens, parle des différents ministères qui ont été donnés par Christ à l'Église. Et il dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Vous savez, je crois que l'Église de Jésus devient mature, non pas par la foi plurielle. Je m'explique. Toi, tu crois ça, moi, je crois ça, l'autre, il croit autre chose. L'essentiel, c'est qu'on s'aime, mimi, bisous, et je te prends par l'épaule. Non. C'est les mimi, les bisous, c'est bien. Hein. Mais Paul parle de l'unité de la foi. C'est-à-dire la croissance spirituelle, ça ne va pas être d'amener quelqu'un à dire bah, « moi je crois ça, toi tu crois ça, c'est pas grave ». Non. Je crois que le travail de croissance va nous amener à croire tous la même chose. Parce que, vivant dans le Christ et nous nourrissant de sa parole, le Saint-Esprit va nous amener à l'unité de la foi. En tout cas, c'est ce qui est écrit. Et pas seulement l'unité de la foi, mais dit « et de la connaissance du Fils de Dieu » à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc on est loin de l'engendrement ou de la création. Là, cette fois, il y a eu le bébé, puis il y a eu le jeune enfant. Et enfin, toujours dans le Christ, pas plus qu'avant, mais dans le Christ, le chrétien a tiré de Jésus l'accroissement pour devenir finalement un homme fait. La mesure de la stature parfaite de Christ. Le grec dit « à la mesure de la taille de la plénitude du Christ ». Ouf ! À la mesure de la taille de la plénitude du Christ. Dans l'Épître aux Colossiens, c'est un verset que j'aime beaucoup, Paul dit de Jésus « c'est lui que nous annonçons ». Il ne parlait pas sur Christ, il ne faisait pas des discours sur Christ, il prêchait Christ. C'est lui que nous annonçons. Ça, c'est l'évangéliste. Exhortant tout homme, ça, c'est le pasteur. Instruisant tout homme, ça, c'est le docteur. En toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est pas rien. Les ministères ont été donnés à l'Église pour que l'Église grandisse et que finalement, les gens arrivent à être parfait, ça ne veut pas dire sans péché, hein. On parle de parfait dans le sens de maturité là. Parce que le mot grec, là encore, veut dire homme terminé, achevé, accompli, à qui rien ne manque. À qui rien ne manque. Homme dans la force de l'âge, arrivé à point, parvenu à maturité, mûr. La croissance s'est faite dans le Christ. Et le troisième élément, et je vais terminer avec ça pour le premier volet, pardon si je n'ai pas tout traité. Hein. Pardon, mon frère, pardon. Pardon. Le troisième élément en Christ, pour nos progrès, c'est l'acquisition de nos richesses en lui. Je vais vous prendre une image. Imaginez un enfant de race royale, un prince, qui va naître dans un magnifique château. Au départ de sa vie, il est dans le château, mais dans son berceau. Et il n'ira pas au-delà. Comment voulez-vous qu'il aille au-delà du berceau? Mais il est dans le château. Dans le château comme un bébé, c'est-à-dire dans son berceau. Ensuite, bah peut-être qu'il aura un petit parc, vous savez, où on met les jeunes enfants. C'est plus le berceau. C'est un petit peu plus grand, mais il n'est pas plus dans le château. Seulement, il y a quelque chose de plus grand dans lequel il évolue, dans le château, parce qu'il a grandi. Et puis le voilà maintenant prince à l'âge adulte. Il va découvrir tout ce qu'il a. Il va découvrir tout ce qui est à lui. Bébé, il n'était pas moins dans le château. Il ne possédait pas moins, mais il n'était pas en état de le saisir. Maintenant qu'il a grandi, il comprend qu'il peut évoluer dans tout ce qui lui appartient. C'est ta position, mon frère, ma sœur, dans le Christ. Tu as été transféré dans le royaume du Fils de l'amour de Dieu. Au départ, c'est ton petit berceau. J'espère qu'on n'en est plus là. Ça a été ton petit parc. Maintenant, il faut grandir. Il faut grandir pour découvrir tout ce que tu as dans le Christ. Une autre image. Un enfant dans un jardin immense, il va se contenter de cueillir un ou deux fruits, ou trois ou quatre, pour le mettre dans le panier, et puis c'est tout. Adulte, il va arriver pour se saisir du maximum de fruits, il va prendre des engins, il va prendre des collègues, et puis on va ramasser tout ce qu'il y a dans le verger, parce que c'est là la production, c'est à nous, on en profite au maximum. Vous aurez compris que nos progrès consistent à saisir par la foi tout notre héritage en Jésus, et c'est ce que Paul a saisi dans sa marche avec Dieu. Il dit de Jésus, « Vous êtes accompli en lui », ou encore « Vous avez tout pleinement en lui », ou comme le dit le texte original, « Vous êtes en lui ayant été pleinement comblé ». J'aime beaucoup une espèce de résumé de ce que Jean a vécu avec Jésus durant 3 années et demie. Relisez le prologue de son évangile. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Il n'écrit pas son évangile comme quelqu'un qui aurait connu un tout petit peu de Jésus, quelques miettes du ciel. Il dit « Nous avons tous reçu de sa plénitude. » Paul a écrit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » L'apôtre Jean dit « Tel il est. » Tel il est. Maintenant, tel nous sommes aussi. Dans ce monde. Pourquoi ça? Parce que le Christ du ciel est dans ton cœur. Et si le Christ du ciel est dans ton cœur, tel il est, alors tel tu es maintenant, dans ton environnement, là où tu es. L'apôtre Paul dit aux Romains que Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. On parle beaucoup du fils prodigue, mais vous parlez de son frère aîné. Ah lui, c'est le chrétien nickel au top. 5 étoiles, ou 5 barrettes, le colonel en chef de l'armée, qui n'a rien compris à la grâce, mais rien. L'autre, il revient, il pue le cochon, il vient des bouges de la ville, il s'est souillé avec des prostituées, enfin... Il arrive, repentant. Il ne revient pas avec un petit cochon sous le bras, remarquez-le. Il revient repentant. Ah oui, les cochons, il les a laissés. Il ne revient pas quand même dans la maison du Père avec un cochon. Non. Il revient repentant. Et vous comprenez ce que je veux dire? Et on fait la fête! Enfin, il va passer par la salle de bain d'abord. Ah oui, parce qu'il va pas. Non, il va quand même pas enfiler la belle robe en sentant le cochon. Il passe par la salle de bain, ça c'est sûr. Et puis on le revêt de la plus belle robe. La musique, les chants, dans la coutume orientale, les danses, enfin c'est la fête. Et l'autre, lui, il n'est pas à la réunion. C'est-à-dire que le service a plus de place dans sa vie que la communion avec le Père. Ça, c'est déjà un danger. Donc, qu'est-ce qu'il fait dehors, à l'heure où la famille est réunie, pour être en communion avec le Père et se réjouir? Quelque chose qui ne va pas, là. Fait 2 heures supplémentaires ou quoi? Il arrive près de la maison, il dit, c'est quoi ça? Il appelle un serviteur, il dit, c'est quoi là ce qu'on entend, là, cette ambiance? Parce que la maison du Père, c'est un cimetière. Il est étonné qu'il y ait de la joie. Mais c'est quoi pour lui la maison du Père alors? Alors, le serviteur, lui, tout naïf, mais tu sais pas, mais ton frère est revenu. Il s'est repenti, il est tombé dans les bras du Père, le Père lui a donné le baiser du pardon et il a la plus belle robe, il est en train de faire la fête, ton fils, ton frère est revenu de sa souillure et c'est la fête. C'est la grâce du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple et il ne veut pas rentrer. Alors le Père sort, d'ailleurs le Père passe son temps à sortir, hein. Il sort une première fois pour accueillir le fils repentant, il ressort une deuxième fois pour accueillir le fils qui ne veut pas rentrer. C'est curieux la parabole, le fils qui était dehors est maintenant dedans, et le fils qui est dedans est maintenant dehors. Mais ça nous parle, hein, je vous le dis, ça nous parle. Alors le père sort, et puis il explique, mais quand ton fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Écoutez-le, l'autre, qui n'a rien compris à la grâce. Il y a tant d'années que je te sers. Compte les années, lui. Sans avoir jamais transgressé tes ordres. Moi, je demande à voir. Hein. Je demande à voir. Mais admettons. Admettons. Et jamais, jamais, tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Attendez, il a servi des années pour un chevreau. Et qu'est-ce que c'est que ces amis, là? Parce que la maison du Père, ça ne lui convient pas. Qu'est-ce que c'est que son petit club à lui, là, sa petite église à lui dans son coin? Qu'est-ce que c'est que ce... Et le Père dit, mais mon enfant, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il n'a jamais compris ça. Est-ce que Dieu serait obligé de te dire ce matin, ou de me dire, mais mon fils, ma fille, ça fait combien d'années que tu es avec moi dans le Christ, parce que je t'ai délivré de la puissance des ténèbres et je t'ai transporté dans le royaume. Mais tout ce qui est à lui est à toi. Comment est-ce que tu as pu vivre ta vie chrétienne en jalousant le frère un tel, en jalousant la sœur une telle, en maugréant en cachette, le pasteur n'en sait rien, mais ça bout dans ta petite marmite ce matin. Lui, il est béni, elle a été exaucée, et moi, j'ai rien. Mais arrête avec ça. Arrête avec ça. Tout ce qui est à lui est à toi. C'est ça, la grâce. C'est ça, le véritable christianisme. Et c'était le premier volet, je m'étais dit, je parle 20 minutes là-dessus. Mais ça fait trois quarts d'heure, bien trois quarts d'heure. Alors je dis à Benjamin, on va marquer une petite pause parce que je sais ce que c'est que de suivre longtemps une étude. Donc on va marquer une petite pause, mais qui ne soit pas vraiment une coupure où tout serait recommencé dans quelques minutes, mais quelques courtes minutes, et puis on reprend aussitôt. D'accord. J'ai beaucoup de choses à vous dire, je vais donc faire très court. Le troisième, ce sera pour demain matin, une partie, puisqu'on devait le faire ce matin et demain matin. Donc je vais simplement faire une ébauche du deuxième volet, c'est-à-dire mon itinéraire en Christ. Je reviens sur le texte de départ, qui est le texte central. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et vous redire ceci, mais je sais que vous êtes convaincus de ça, il n'y a pas de christianisme véritable sans repentance. Il n'y a pas de christianisme véritable sans conversion, sans une nouvelle naissance. On n'adhère pas à l'Évangile, on est transformé de fond en comble par Jésus, par l'action du Saint-Esprit, par l'action de la parole de Dieu. Je n'hésite pas à vous rappeler ce que vous connaissez vraiment à fond. Quel a été le premier message de Jésus? Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Quel a été le premier message apostolique après l'ascension ? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et quelques jours après, juste après la guérison du boiteux de la belle porte du temple, repentez-vous et convertissez-vous afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Quel a été le résumé du message de Paul devant les anciens d'Éphèse ? Je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Et je n'ai pas craint de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Quel a été ce même témoignage de Paul devant le roi Agrippa, à Jérusalem, d'abord à Damas, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et parmi les païens. J'ai prêché la foi en Dieu et la repentance, et il dit avec la pratique digne d'œuvres dignes de la repentance. Maintenant, je vais plus loin. Il n'y a pas d'église véritable de Jésus-Christ si elle n'est pas constituée de personnes qui sont en Christ. Alors oui, vous aurez un groupe religieux, vous aurez un club dit chrétien, mais la véritable Église, au sens biblique du terme, elle est formée de gens qui sont dans le Christ. Paul, serviteur de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à l'Église de Dieu qui est à Philippe. Paul et Sylvain et Timothée, à l'Église qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ. Et je pourrais vous en citer comme ça, jusqu'à l'heure du repas. Dans la Bible, l'Église, elle est formée d'hommes, de femmes, de jeunes gens, de jeunes filles qui sont dans le Christ. Nous devons donc être constamment conscients de notre position spirituelle. Nous sommes en Christ et c'est ce qui fait de nous des chrétiens. À Antioche, pour la première fois, on les a appelés chrétiens. C'était méprisant, hein, mais faut pas se leurrer, c'était un terme de mépris. Mais quand on les a vus vivre, il y avait au moins ça de positif, on a dit, mais c'est des petits Christs, ces gens-là, des chrétiens. Mais finalement, c'est flatteur, et le mot est devenu chrétien. Mais quelle marque ! On les reconnaissait pour avoir été avec Jésus. L'apôtre Paul, quand il parle de lui dans sa seconde lettre aux Corinthiens, vous savez qu'il parle qu'il a été ravi jusqu'au troisième ciel, il introduit son propos en disant « Je connais un homme en Christ ». Ah, demain matin, mon frère, quand tu vas être devant le miroir et que tu vas te raser, tu pourras commencer par dire « Oh Dieu, je te rends grâce parce que je suis une créature si merveilleuse. » Mais il faudra dire aussi, en te voyant, « Je connais un homme en Christ. » Ma sœur, quand tu seras devant le miroir demain matin pour la toilette, puisses-tu dire « Je connais une femme ou je connais une jeune fille en Christ. » En tout cas, c'est ce que Paul disait de lui. Je connais un homme en Christ. Je sais que je suis dans le Christ. Rapidement, je passe là-dessus très rapidement, c'est une évidence. Je n'ai pas le temps de vous citer tous les textes, mais ce n'est pas très important. Avant notre conversion, au lieu d'être en Christ, nous étions séparés de lui. C'est aussi simple que ça. Paul dit aux Galates, vous êtes séparés de Christ. Il dit aux Éphésiens, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Il dit aux Romains, lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres. Vous savez que Corneille, qui était quand même un homme pieux, qui faisait des aumônes, qui priait continuellement, était perdu. Puisque l'ange lui dit, tu vas aller chercher Simon, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé. Donc malgré une piété apparente, il n'était pas sauvé. Tant qu'on n'a pas Jésus, on est perdu. Le point de départ de notre itinéraire en Jésus, puisque c'est bien de cela que nous parlons, c'est d'être en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et là, j'ai quand même vous parler de quelque chose d'important. Le langage de l'apôtre Paul est très significatif à ce sujet. Parce qu'il écrit dans sa lettre aux Éphésiens, « Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. » Écoutez-moi bien sur ce point-là. La conversion, c'est un changement de nature et pas seulement un changement d'influence. Je vais m'expliquer là-dessus. Paul ne dit pas que nous étions dans les ténèbres, ce qui est vrai. Mais ce n'est pas ça qu'il dit. Nous n'étions pas seulement dans les ténèbres, nous étions ténèbres. C'était notre nature. Nous étions ténèbres jusqu'à la moelle des os, de la tête aux pieds. Si nous voulons faire une évangélisation de notre monde percutante, efficace, il faut que nous, chrétiens, nous soyons convaincus que dans le cœur de l'homme, quel qu'il soit, il n'y a rien de bon devant Dieu. Que l'homme est foncièrement perdu sous la domination des ténèbres et qu'il a besoin de Christ pour devenir une nouvelle création. Donc nous étions ténèbres. Et la conversion, c'est quoi ? Maintenant, vous êtes lumière. Il ne dit pas, vous êtes dans la lumière, ce qui est vrai. C'est vrai, mais pas seulement. Nous sommes lumière. Donc la conversion, ce n'est pas un changement d'environnement, de lieu, c'est un changement de nature. On va comparer la maison, notre vie à une maison. Dieu arrive et ne dit pas, tiens, la gouttière, elle fuit, on va faire une petite réparation à la gouttière. Ou le mur est fissuré, on va refaire un petit peu d'enduit. Dieu arrive avec son bulldozer. Et que la maison soit une maison sur le point de s'écrouler comme à Marseille, ou que ce soit une gentille petite maisonnette avec des petites fleurs sur le balcon, il n'y a rien de bon. Dieu arrive et il rase la maison. On rase la maison. Et on en reconstruit une autre. Ou alors j'ai rien compris à l'évangile. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La conversion, ce n'est pas une amélioration, c'est une nouvelle création. Alors je vais vous prendre un exemple, petite illustration pour faire comprendre ça. Vous en Suisse, vous savez très bien ce qu'est la neige. Oh, là où on est, chez Ramsès, il y a de la neige tout autour, quel bonheur. Quand on est venu en train avec ma femme de Bâle jusqu'à Bienne, on est passé dans la montagne avec le train et on aime beaucoup la montagne, on est amoureux de la montagne, on a vu les petits torrents, la neige partout, c'est aux anges. Bon, bref, vous savez ce que c'est que la neige. Imaginez maintenant, comme au bon vieux temps en France, on se chauffait au charbon. Imaginez un tas de charbon. Et vous arrivez devant le tas de charbon, vous prenez un morceau de charbon, et vous dites, la couleur sombre comme ça, du charbon, puis on se salit, il faut qu'il devienne neige. Vous avez le droit de croire au miracle. Il faut qu'il devienne neige. Alors vous enlevez le morceau de charbon du tas de charbon et vous le mettez là, sur la neige. Et vous attendez 3 jours. Vous devez dire, ce pasteur-là est complètement... Attendez. Au bout de 3 jours, vous allez voir le morceau de charbon, oh déception, il est toujours, cette couleur sombre est toujours aussi salissant. Vous dites, ah non mais, je vais faire mieux. Et vous le mettez carrément dans la neige. Vous l'enfouissez. Et vous attendez 3 jours. et vous allez, pas déterrer, mais déneiger le morceau de charbon, et il est toujours du charbon. Vous allez, je ne l'ai pas mis assez haut. Alors vous allez le mettre sur le sommet du Mont Blanc, le toit de l'Europe. Et c'est toujours du charbon. Alors vous chargez un alpiniste chevronné qui va aller le mettre au sommet de l'Everest. Et c'est toujours du charbon. Pourtant, quand on a enlevé le morceau de charbon de son tas de charbon, qu'on l'a sorti de son environnement, et qu'on l'a mis sur la neige, c'était pas encore ça, mais bon. Mais quand on l'a recouvert par la neige, on aurait pu se dire, ça y est, c'est gagné, il est complètement submergé par la neige. Non, vous aurez toujours du charbon, vous le savez bien, à moins d'un miracle de Dieu. Pourquoi pas? Est-ce que Dieu peut-il changer un morceau de charbon en neige? Oui, Dieu peut tout. Dieu peut tout. Le gars, il vit dans les boîtes. Tous les samedis soirs, il s'éclate. Ah, ça, il s'éclate, hein, en mille morceaux. Il s'éclate dans la boîte jusqu'à 2h, 3h, 4h du matin. Les filles, l'alcool, un petit peu de drogue, enfin tout. Puis un jour, on lui parle de Jésus. Et le gars, il sort de son tas de charbon. Et il arrive dans l'église de Bienne, au milieu de vous. Changement d'environnement. Et puis il est là. Une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois. Il commence à se plaire, parce que vous êtes très accueillant. Vos croissants sont très souriants. Enfin, le café est chaud, c'est formidable. Le groupe de jeunesse est magnifique. Il vient au groupe de jeunesse, il chante les cantiques. Il se fait des copains, des copines, il apprend les chants. Il chante. Il est aux réunions. Et il va même lire un peu l'évangile. Vu de l'extérieur, le morceau de charbon est complètement recouvert par la neige. Il est dans l'ambiance de la neige. Vous riez plus là. Et au bout de six mois, peut-être le pasteur que j'étais qui a commis des erreurs se dirait, il n'est plus dans son tas de charbon, il ne va plus dans les boîtes. Il vient à toutes nos réunions, il chante nos cantiques, on va le baptiser. Stop ! Stop, 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 stop. Tu vas le baptiser ? Est-ce qu'il est devenu neige ? Ou est-ce qu'il y a seulement un changement de lieu ? Alors c'est sûr qu'il n'est plus dans les ténèbres, mais est-ce qu'il est devenu lumière? Et on ne baptise pas quelqu'un parce qu'il a adopté nos chants, notre ambiance chrétienne évangélique, mais parce qu'il est né de nouveau. Vous comprenez ça? Et quand j'ai prêché ça dans une église, il y a des frères qui ont dit « celui-là, tu ne le réinvites jamais ». Alors, vous ne me réinviterez peut-être jamais, mais je vous dis ce qui est sur mon cœur. Il ne faut pas que nous construisions des églises de morceaux de charbon qui sont sortis de leur tas de charbon et qui sont arrivés sur la neige. Il faut qu'ils soient nés de nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Je ne sais pas, vous avez un chat? Il y a quelqu'un qui a un chat ici? Vous avez un chat? Ah, j'aime pas les chats. Mais j'aime les frères qui ont des chats. Hein. Mais écoutez, prenez votre chat et mettez-le dans une basse-cour et dites-moi s'il va pondre des œufs. Mais je ne sais pas s'il faut rire finalement là. Je ne sais pas s'il faut rire. Ce n'est pas parce que vous allez mettre un chat dans une basse-cour qu'il va pondre des œufs. Et c'est pas parce que quelqu'un se plaît dans nos réunions et vient en réunion qu'il est chrétien. Est-ce qu'il est né de nouveau? Est-ce que le Saint-Esprit a percuté son cœur? Est-ce qu'à un moment donné, il a été brisé au pied du Seigneur? Je suis fils de pasteur. J'ai grandi dans l'Église. Des prédications, j'en ai entendu des centaines. Des centaines. Je ne suis pas allé dans le monde parce que je pouvais pas. Hein, mais il n'y avait pas le choix à la maison, c'était comme ça. Ah oui, et je bénis mes parents. Je bénis mes parents pour leur fermeté dans ce domaine-là. Mais pour moi, le pécheur, c'était la prostituée, le gangster, le voleur, mais pas le petit fils de pasteur que j'étais. Oui, il y avait bien des écarts, mais bon. Puis un certain vendredi saint, le 27 mars 1964, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas oublier, 60 rue de Coville, c'est l'adresse de l'église de Rouen, vers 4 heures de l'après-midi, j'avais une journée de jeûne, toute la journée, l'église priait. Et l'adolescent de 16 ans que j'étais a eu envie d'aller à la réunion. Alors là, ça ne me ressemblait pas du tout. Mais je n'étais pas obligé d'aller à cette réunion-là, mais j'ai envie d'y venir. Et trop orgueilleux pour y aller tout seul, je suis parti prendre un copain de l'église qui était dans le même état que moi, et nous sommes arrivés dans la réunion. Alors il y a eu des chants, chantés, parce que moi je chantais, j'aimais bien chanter, donc je chantais. Ça me... La neige, ça ne me dérangeait pas, moi, le morceau de charbon au milieu de la neige. J'ai écouté le pasteur, ça m'a fait autant d'effet qu'à 400 fois avant. Puis nos églises, à ce moment-là, priaient à genoux. Et on s'est tous mis à genoux, alors il y avait... L'église de Rouen était importante. On était donc à genoux. Mais là, je ne peux pas vous l'expliquer, il faut le vivre. À un moment donné, ça s'est passé dans mon esprit. J'ai rien vu avec mes yeux, mais ça s'est passé dans mon esprit. J'étais au pied de la croix. Et il était sur la croix. Et il m'a dit, parce que vous ne pouvez pas oublier ça, c'est pour toute la vie. Ce n'est pas seulement pour les autres que je l'ai fait. C'est pour toi. C'est arrivé comme une flèche dans mon cœur. Je me suis écroulé en larmes. Moi, le fils de pasteur, je ne sais pas ce que c'est qu'une boîte de nuit. Je ne sais même pas ce que c'est que de fumer, si, une ou deux en cachette comme ça, mais ça ne m'a jamais vraiment intéressé. Moi, le fils de pasteur, qui n'était jamais allé dans le monde, qui ne savait pas ce que c'était que la souillure du monde, je me suis écroulé en larmes, convaincu de mes péchés, de ma pourriture, je pèse mes mots, de ma pourriture. Parce que c'était là au fond. Le morceau de charbon était dans la neige, mais il n'était pas de la neige. Et ce jour-là, c'est curieux, ça a été physique. J'ai senti comme un poids qui s'en allait de mes épaules. Et je me suis senti léger. Je ne savais pas que j'étais lourd. Je ne savais pas que j'étais chargé. Je l'ai su à ce moment-là. Quelque chose venait de se passer. Je me suis relevé de là. Rempli d'une joie extraordinaire, j'ai rembrassé la terre entière. J'étais trop fier, trop orgueilleux pour dire ça à mes parents quand je suis rentré à la maison. C'est curieux, ils vont être trop contents, ça fait tant d'années qu'ils prient pour ça, c'est curieux comme on est fait à l'envers. Enfin, il n'y a que moi qui suis comme ça, je ne sais pas. Et puis est arrivée la question du baptême, quelques temps plus tard, parce que ma vie a complètement changé. Je ne lisais pas ma Bible, j'ai commencé à la lire. Je ne priais pas, je priais tous les matins dans ma chambre avant de partir au collège. J'étais à toutes les réunions, il n'y en avait pas assez. Et à un moment donné, j'ai parlé du baptême quand même. Et j'ai parlé de ça à mes parents et ma mère m'a dit « Oui, oui, on sait, tu t'es converti le 27 mars 64. » Parce que le changement a été radical. Ça a été un changement radical, ils l'ont vu, ça a été net. Le morceau de charbon était devenu de la neige. Alléluia. Je suis parti comme une Ferrari, je ne me suis jamais arrêté. C'est la meilleure des vies. Alors l'itinéraire en Christ, 5 minutes. Merci frère, merci. Ben, je vais faire très vite, parce que je n'ai pas le temps de voir tout ça. Quand nous sommes venus ici à Bienne avec ma femme, nous avons pris le TGV à Paris-Gare de Lyon. Nous nous sommes installés dans le compartiment, enfin dans le wagon, l'un à côté de l'autre, et le train était à quai, le TGV Lyria était à quai, gare de Lyon. Et nous avons attendu. À 12h23, coup de sifflet du chef de gare, le train est parti. Nous étions toujours assis l'un à côté de l'autre, nous ne faisions rien. Une heure et demie après, le TGV était en gare de Dijon, nous étions à Dijon. Nous n'avons toujours pas bougé, le train est reparti. Quelque temps plus tard, le train est arrivé à Mulhouse, nous étions à Mulhouse. Et nous n'avons rien fait. parce que nous étions dans le train. Et là où était le train, nous y étions. Tu es dans le Christ. Tu es dans le Christ. Alors son itinéraire est le tien. Ce n'est pas quelque chose qui est à faire par tes efforts. C'est quelque chose qui est fait et que tu dois saisir par la foi. Alors, quand il va sur la croix, tu y es aussi. J'ai été crucifié avec Christ. Et puis, il descend dans le tombeau. Mais tu y descends aussi. Demain matin, je vous parlerai de la joie de trouver le tombeau. Tu y descends aussi, puisque tu es en lui. Et là, on se souvient de l'apôtre Paul aux Romains qui dit « Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort ». Dans Romains 6, Paul ne parle pas du baptême d'eau. Il parle du baptême dont le baptême d'eau est le symbole. Il parle d'une immersion dans la mort. Nous avons été ensevelis avec lui par l'immersion en sa mort. Christ a été immergé par la mort et nous en lui, nous le sommes aussi. Et puis, ah c'est dommage, j'ai des textes formidables à vous lire, mais je n'ai pas le temps. Le dimanche matin de Pâques, un ange vient, il roule la pierre, tremblement de terre, Dieu déploie sa force dans le Christ, et il le ressuscite d'entre les morts. Ben toi aussi, puisque tu es en lui. Quand il ressuscite, tu ressuscites en lui, avec lui, c'est fait. La parole de Dieu dit, il nous a ressuscités ensemble avec lui. Non pas il nous ressuscitera le dernier jour, parce que c'est toujours facile d'envoyer les textes dans le futur, mais ça c'est pour maintenant. Il nous a ressuscités. Et ensuite, quand Jésus remonte au ciel, il vient dire, non, on n'y est quand même pas. Mais si. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Non pas il nous fera asseoir. C'est cette manie de prendre des textes qui nous gênent et de les projeter dans le futur. On a la religion de Marthe. La religion de Marthe. C'était une championne dans le genre. Marthe, elle avait un Christ du passé et un Christ du futur. Juste deux mots là-dessus. Lazare est mis dans le sépulcre, et Jésus n'est pas venu. Alors il y a la rencontre entre Marthe, éplorée dans le chagrin, effondrée, et Jésus. Ah, Seigneur, si tu avais été ici, il y a à peine un reproche là-dedans, hein, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Elle a un Christ du passé. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Je ne sais pas trop ce qu'elle veut dire là, parce que la suite, ce n'est pas clair. Alors Jésus lui dit, Marthe, ton frère ressuscitera. Et là, elle attrape son Christ du passé et elle le projette dans l'avenir. Ah oui, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection des morts au dernier jour. Alors Marie, Marthe, il faut que tu m'expliques, dans ta religion évangélique là, ton Christ il est où? Parce que tu as un Christ du passé, tu as un Christ pour l'avenir, mais pour le présent, elle n'a rien. C'est pour ça qu'elle est effondrée, qu'elle pleure. Parce qu'elle n'a rien, elle n'a pas un Christ d'aujourd'hui. Et que va dire Jésus? Marthe, je suis la résurrection et la vie. Et il va le prouver. Il arrive devant le sépulcre, enlever la pierre, et deux mots, Lazare sort. Et un frère a dit, heureusement qu'il a dit Lazare, parce que tous les morts seraient sortis. Mais oui, ça c'est le Christ d'aujourd'hui. Ça c'est notre Christ, il est le Christ d'aujourd'hui. Alors je reviens à mon texte. La Bible me dit, mais quand il est monté au ciel... Alors vous n'allez pas me dire, frère, qu'on est monté avec lui. Il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Alors je vais parler du train, je vais vous parler de l'avion maintenant. Parce qu'on est allé dans quelques pays avec mon épouse. Monte dans l'avion. Quand il est sur le tarmac, nous sommes au rez-de-chaussée. Nous dit que nous sommes morts en Christ. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et juste après, il est question des œuvres de la chair. Il y en a 15 nommées. 15. 15 choses mauvaises. Alors, on a envie de dire, mais alors, si ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions, ce n'est pas la peine de nous citer les 15 manifestations de la chair. Il y a un frère qui, un jour, priait un dimanche matin dans une église. Seigneur, c'est sérieux, c'est une histoire vraie. Hein? Seigneur, enlève l'étoile d'araignée que j'ai dans le cœur. Le dimanche d'après, Seigneur, enlève l'étoile d'araignée que j'ai dans le cœur. Le dimanche d'après, Seigneur, enlève l'étoile d'araignée que j'ai dans le cœur. Il y a un frère, il n'en pouvait plus. Il a dit, Seigneur, tue l'araignée qu'il a dans le cœur, il n'y aura plus de toile. Mais oui, pourquoi essayer de faire mourir ce qui est déjà mort? Et tu essaies de faire mourir des choses qui vivent en toi, parce que tu ne laisses pas la mort de Jésus opérer en toi. Si tu laisses la mort de Jésus opérer en toi, tu n'auras pas à lutter pour faire mourir. Ce sera fait. Tu es dans le train ou tu es dans l'avion. Alors, je voudrais terminer en vous disant ceci. 1. À propos de la résurrection. Il a déployé sa force en Christ en le ressuscitant d'entre les morts. Imaginez la puissance que Dieu a dû déployer pour sortir Jésus du tombeau. Dans quel état était le corps de Jésus? Eh bien, mon frère, ma sœur, la puissance qui a sorti Jésus du tombeau, c'est la même que Dieu est prêt à déployer dans ta vie. La même pour te faire vivre une vie de résurrection. Nous n'avons pas d'excuses pour justifier notre médiocrité. Nous sommes appelés à être des princes qui règnent dans la vie par Jésus-Christ. Sa position dans le ciel, écoute la Bible, il l'a fait asseoir au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute dignité, de toute puissance qui se peut nommer dans le siècle présent, dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Tu es avec lui là-haut? Tout est sous tes pieds. Tout est sous tes pieds parce que tu es en lui. Bien, c'est difficile. Il y a des religions, il y a des indifférents, il y a des blasphémateurs, il y a une jeunesse qui se souille. Et alors, où est le problème? Si l'Église que vous êtes saisit ce qu'elle est vraiment dans le Christ, bien, je vous le dis, sera sous vos pieds. Et vous ne soupçonnez pas aujourd'hui ce que votre Église peut devenir si vous laissez le Christ glorieux s'emparer de vous. Laissez-le régner dans vos prières, dans vos foyers, dans vos chants, dans votre prédication, dans votre témoignage, dans votre vie familiale. Christ, tout en tous. Et je vous dis encore une fois que vous ne soupçonnez pas tout ce qui peut se faire quand lui, enfin, prend toute la place. Il l'a dit. J'ai vu un mal comme provenant d'une erreur de celui qui gouverne. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et j'ai vu des princes marchant à terre comme des esclaves. C'est une erreur de celui qui gouverne. Tu es prince? Princesse, comment tu gouvernes ta vie? Tu vas laisser le diable te laisser marcher à terre comme un esclave alors que tu es prince? Laisse-toi mettre sur le cheval de sa victoire. Tu es prince, ta place n'est pas de marcher à terre comme un vaincu, ta place est sur le cheval. Ne commettons pas des erreurs de gouvernement dans nos vies. Laissons le Seigneur s'emparer de nous et faire avec nous, sur le plan personnel, sur le plan familial, sur le plan de notre Église, tout ce qu'il veut faire. Voilà ce que je voulais partager avec vous en accélérant un peu les choses vers la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.